Chapitre 10. Tempête au ministère. Il n'avait dormi que quelques heures lorsque M. Wesley les réveilla. Il eut recours à la magie pour démonter et plier les tentes, et ils se hâtèrent de quitter le camping, passant devant M. Roberts, debout à la porte de sa maisonnette. M. Roberts avait un étrange regard hébété, et il les salua d'un geste de la main en murmurant un vague joyeux Noël. « Il va se remettre », assura M. Wesley à voix basse, tandis qu'il s'avançait sur la lande. « Parfois, quand on modifie le souvenir d'une personne, elle est un peu désorientée pendant quelque temps, et c'était très difficile de lui faire oublier une chose pareille. » En approchant de l'endroit où se trouvait le port au loin, ils entendirent des voix affolées et virent une foule de sorcières et de sorciers rassemblés autour de Basile, le responsable des transports. Tous exigeaient de partir le plus vite possible. M. Wesley eut une rapide conversation avec Basile. Ils rejoignirent ensuite la file d'attente et un vieux pneu usé les ramena sur la colline de Tetafouine avant le lever du soleil. Dans la lumière de l'aube, ils traversèrent le village de Loutry-Saint-Chaspoul en direction du terrier. Ils étaient trop épuisés pour parler et ne pensaient plus qu'à s'asseoir devant un bon petit déjeuner. Lorsqu'ils eurent franchi la dernière courbe que décrivait le chemin de terre humide avant d'arriver chez eux, ils entendirent un grand cri.
« Oh, merci, merci, au nom du ciel, merci !»
Madame Wesley, qui les avait attendus devant la maison, se précipita vers eux, encore chaussée de ses pantoufles, le teint pâle, les traits tirés, la main crispée sur un exemplaire froissé de la Gazette du Sorcier.
« Arthur, j'étais si inquiète, oh, si inquiète !»
Elle sauta au cou de M. Wesley et la Gazette du Sorcier tomba par terre. Jetant un coup d'œil au journal, Harry vit un gros titre. « Scène de terreur lors de la Coupe du Monde de Quidditch » au-dessus d'une photo en noir et blanc qui montrait la marque des ténèbres scintillant au-dessus de la cime des arbres.
« Vous n'avez rien eu ?»
murmura Mme Wesley affolée en relâchant son mari puis en les regardant l'un après l'autre, les yeux rougis.
« Vous êtes tous vivants. Oh, oh mes enfants !»
À la grande surprise de tout le monde, elle saisit Fred et Georges par le cou et les étreignit avec tant de force que leurs têtes se cognèrent l'une contre l'autre.
« Ah, maman, tu nous étrangles !»« Je vous ai grondé quand vous êtes partie, »
dit Madame Wesley en se mettant à sangloter.
« Je n'ai pas cessé d'y penser. Si vous savez qui vous avez fait du mal alors que la dernière chose que je vous ai dite, c'est que vous n'aviez pas eu assez de buse. Oh, bon Fred oh. Georges, oh.
Allons, allons, Molly, tu vois bien que nous sommes en parfaite santé, hein ?»
dit M. Wesley d'un ton apaisant. Il l'arracha aux jumeaux et l'emmena vers la maison.
« Bill, dit-il à voix basse, ramasse le journal, je voudrais voir ce qu'il raconte. »
Lorsqu'ils se furent tous serrés dans la minuscule cuisine et qu'Hermione eut préparé à Madame Wesley une tasse de thé très fort, dans lequel M. Wesley insista pour verser un doigt d'Ogden's Old Fire Whiskey, Bill tendit le journal à son père. M. Wesley parcourut la première page tandis que Percy lisait par-dessus son épaule.
« J'en étais sûr, » soupira M. Wesley. « Nombreuses bévues du ministère. Les coupables n'ont pas été retrouvés. De graves négligences dans la sécurité. Des mages noirs se déchaînent. Une honte pour le pays. Qui a écrit ça ? Ah ! Bien sûr ! Rita Skeeter.
Ah ! Celle-là, elle a une dent contre le ministère de la magie !» dit Percy avec fureur. « La semaine dernière, elle a écrit que nous perdions notre temps à pinailler sur l'épaisseur des fonds de chaudron au lieu de faire la chasse aux vampires !»
Comme s'il n'était pas spécifiquement indiqué dans l'article 12 du règlement concernant le traitement des créatures partiellement humaines.
« On fait nous plaisir, Perse, » dit Bill en bâillant. « Oh, ouais, tais-toi un peu, hein ?»« Oh.
Elle parle de moi, »
dit M. Wesley. Ses yeux s'agrandirent derrière ses lunettes lorsqu'il lut la fin de l'article.
« Où ça ?» s'exclama Madame Wesley en avalant son thé de travers.
« Si je l'avais vu, j'aurais tout de suite su que tu étais vivant. »
« Elle ne cite pas mon nom, » dit M. Wesley. « Écoutez ça. Si les sorcières et sorciers qui s'étaient rassemblés dans l'angoisse à la lisière du bois attendaient quelques paroles rassurantes de la part des représentants du ministère de la magie, ils en auront été pour leurs frais. Un membre du ministère est en effet arrivé un bon moment après l'apparition de la marque des ténèbres en affirmant que personne n'avait été blessé mais en refusant de donner davantage d'informations. Cette déclaration suffira-t-elle à dissiper les rumeurs selon lesquelles plusieurs corps auraient été découverts dans le bois une heure plus tard ? Il est permis d'en douter. Et alors ?
s'exclama M. Wesley d'un ton exaspéré en tendant le journal à Percy. « C'est vrai que personne n'a été blessé. Qu'est-ce qu'elle voulait que je dise ?»«
Les rumeurs selon lesquelles plusieurs corps auraient été découverts. Maintenant qu'elle a écrit ça, c'est sûr qu'il va y en avoir des rumeurs. »
« Oh !» Il poussa un profond soupir. « Molly, il faut que j'aille au bureau. Nous risquons d'avoir beaucoup de travail pour arranger ça. »«
Je viens avec toi, père, » dit Percy d'un air important. « Monsieur Croupton aura besoin de tout le monde. Comme ça, je pourrai lui remettre mon rapport sur les chaudrons en main propre. » Et il sortit en trompe de la cuisine. Madame Wesley avait l'air désemparée.
« Arthur, tu es censé être en vacances. Tu n'as rien à voir avec cette histoire. Ils peuvent sûrement s'en occuper sans toi. »
« Je dois y aller, Molly, » dit M. Wesley. « Les choses ont empiré à cause de moi. Le temps de me changer et j'y vais. »«
Madame Wesley, » dit soudain Harry, trop impatient pour attendre plus longtemps, « Edwige ne serait pas venue m'apporter une lettre par hasard ?»«
Edwige ?» dit Madame Wesley d'un air étonné. « Non, il n'y a pas eu de courrier du tout. »
Ron et Hermione observèrent Harry avec curiosité. Celui-ci leur lança un regard appuyé et dit « Ça ne t'ennuie pas que j'aille mettre mes affaires dans ta chambre, Ron ? » ?»«
Pas du tout. »
« D'ailleurs, je crois que je vais monter au fi, » répondit aussitôt Ron. « Hermione ?»«
Je viens avec vous, » dit-elle.
Et tous trois sortirent de la cuisine en direction de l'escalier. « Qu'est-ce qui se passe, Harry ?» demanda Ron, dès qu'ils eurent refermé derrière eux la porte du grenier.
« Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, » répondit Harry.
« L'autre jour, je me suis réveillé et ma cicatrice a recommencé à me faire mal. » La réaction de Ron et d'Hermione fut à peu de choses près celle qu'il avait imaginée dans sa chambre de Private Drive. Hermione eut un haut-le-corps et fit aussitôt quelques suggestions, énumérant de nombreux titres d'ouvrages de référence et citant les noms d'à peu près tout le monde, depuis Albus Dumbledore jusqu'à Madame Pomfraîche, l'infirmière de Poudlard. Ron, quant à lui, semblait abasourdi.
« Mais il n'était pas là quand même. Je veux dire, tu sais qui ? La dernière fois que ta cicatrice t'a fait mal, il était à Poudlard, non ?» « Je suis sûr qu'il n'était pas à Private Drive, » dit Harry. « Mais je rêvais de lui, de lui et de Peter. Tu sais, que de verre. Je ne me souviens plus des détails maintenant, mais ils étaient en train de faire des projets pour tuer quelqu'un. »
Pendant un instant, il avait été sur le point de dire « pour me tuer », mais il ne pouvait se résoudre à aggraver l'expression d'horreur qu'il voyait sur le visage d'Hermione.
« Ce n'était qu'un rêve, » dit Ron d'un ton assuré.
« Un simple cauchemar. »«
Oui, mais je finis par me demander, » répondit Harry en se tournant vers la fenêtre pour regarder le ciel qui commençait à s'éclairer. « C'est bizarre, non ? Ma cicatrice me fait mal, et trois jours plus tard, les mangemorts défilent et le signe de Voldemort réapparaît devant tout le monde. « Ne prononce pas son nom !»
siffla Ron entre ses dents serrées.
« Et vous vous souvenez de ce qu'avait dit le professeur Trelawney ?» poursuivit Harry sans tenir compte de l'intervention de Ron.
« À la fin de l'année dernière. » Le professeur Trelawney enseignait la divination à Poudlard. Le regard terrifié d'Hermione s'effaça aussitôt et elle laissa échapper une exclamation dédaigneuse. « Harry, tu vas quand même pas accorder la moindre importance à ce que dit cette vieille folle. Elle n'a jamais raconté que des mensonges. Tu n'étais pas là, » répliqua Harry. « Tu ne l'as pas entendu. Cette fois, c'était différent. Je t'ai dit qu'elle était entrée en transe, une vraie transe. » Et elle a dit que le Seigneur des Ténèbres surgirait à nouveau, plus puissant et plus terrible que jamais. D'après elle, il allait y parvenir parce que son serviteur s'apprêtait à le rejoindre, et la nuit suivante, Cudvert s'est enfui.
Il y eut un silence, pendant lequel Ron tripota distraitement un trou dans son couvre-lit à l'image des canons de Chudley.
« Pourquoi as-tu demandé si Edwige était venue, Harry ?» dit Hermione. « Tu attends une lettre ?»
« J'ai parlé à Sirius de ma cicatrice, » expliqua Harry en haussant les épaules. « J'attends sa réponse. »«
C'est une très bonne idée !» s'exclama Ron, dont le visage s'éclaira soudain. « Je suis sûr que Sirius saura ce qu'il faut faire. »
J'espérais qu'il me répondrait vite.
« Mais on ignore où il est, peut-être en Afrique ou ailleurs. Edwige ne pourrait pas faire un tel voyage en quelques jours, »
dit Hermione avec raison.
« Je sais, » admit Harry, mais il eut l'impression d'avoir un poids dans l'estomac lorsqu'il regarda par la fenêtre et vit le ciel vide, sans la moindre trace d'Edwige à l'horizon. « Viens, Harry, on va faire une partie de Quidditch dans le verger, » proposa Ron. « 3 contre 3. Bill, Charlie, Fred et George joueront avec nous. Tu pourras essayer la feinte de Vronsky. »
« Ron, »
dit Hermione d'un ton sous-entendant qu'elle était décidément la seule à se montrer raisonnable. « Harry n'a pas du tout envie de jouer au Quidditch maintenant. Il est inquiet, il est fatigué, nous avons tous besoin d'aller nous coucher. » « C'est une bonne idée de faire une partie de Quidditch, » dit soudain Harry. « Je vais chercher mon éclair de feu. » Et Hermione quitta la pièce en marmonnant quelque chose du genre « Oh, les garçons !» Au cours de la semaine qui suivit, ni M. Wesley ni Percy ne furent très présents à la maison. Tous deux partaient chaque matin avant que le reste de la famille se lève et rentraient chaque soir bien après l'heure du dîner. « C'est une véritable tempête !» leur expliqua Percy d'un air important la veille de leur retour à Poudlard. « J'ai passé la semaine à essayer de calmer les choses. Les gens ne cessent de nous envoyer des beuglantes, et comme vous le savez, les beuglantes, quand on ne les ouvre pas tout de suite, elles explosent. Il y a des marques de brûlures sur toute la surface de mon bureau et ma meilleure plume a été réduite en cendres. »« Pourquoi ils envoient des beuglantes ?» demanda Ginny, qui était assise devant la cheminée du salon en train de rafistoler avec du papier collant son exemplaire de 1000 herbes et champignons magiques. « Pour se plaindre de la sécurité pendant la Coupe du Monde, » répondit Percy. « Ils veulent des dédommagements pour leur tente saccagée. Modingus Fletcher a déposé une réclamation pour se faire rembourser une tente de 12 pièces, cuisine, salle de bain avec jacuzzi. Mais je le connais, celui-là. Je sais parfaitement qu'il couchait sous une cape tendue sur des piquets. » Madame Wesley jeta un coup d'œil à l'horloge de grand-mère qui se trouvait dans un coin du salon. Harry aimait particulièrement cette horloge. Elle était complètement inutile si on voulait savoir l'heure. Mais elle donnait d'autres informations très précieuses. Elle avait 9 aiguilles d'or dont chacune portait le nom d'un des Wesley. Le cadran ne comportait aucun chiffre, mais des indications sur les endroits où pouvaient se trouver les membres de la famille. À la maison, à l'école, au travail était bien sûr mentionné, mais on pouvait également lire « perdu », à l'hôpital, en prison, et à la place où aurait dû normalement figurer le 12 de midi, en danger de mort. 8 des aiguilles étaient pointées sur « à la maison », mais celle de M. Wesley, qui était la plus longue, indiquait toujours « au travail ». La dernière fois que votre père était obligé d'aller au bureau le week-end, c'était au temps de vous savez qui, soupira Madame Wesley. Ils le font beaucoup trop travailler. Son dîner sera immangeable s'il ne revient pas très vite. Père sait bien qu'il lui faut rattraper l'erreur commise le jour du match, déclara Percy. Pour dire la vérité, il était un peu imprudent de sa part de faire une déclaration publique sans s'être d'abord concerté avec le directeur de son département. « Je t'interdis de critiquer ton père à cause de ce qu'a écrit cette horrible petite Rita Skeeter, » s'emporta Madame Wesley. Si papa n'avait rien dit, la vieille Rita aurait simplement écrit qu'il était scandaleux qu'aucun membre du ministère n'ait fait de commentaires, intervint Bill qui jouait aux échecs avec Ron. « Avec Rita Skeeter, tout le monde a toujours tort. Tu te souviens un jour, elle a interviewé les briseurs de sortilèges de chez Gringotts et elle a dit que j'étais un bonnet aux cheveux longs. « C'est vrai qu'ils sont un peu longs, mon chéri. » fit remarquer Madame Wesley avec douceur. « Si tu voulais bien que je... »« Non, maman, non !» La pluie martelait les fenêtres du salon. Hermione était plongée dans le livre des sorts et enchantements niveau 4, dont Madame Wesley avait acheté plusieurs exemplaires pour Harry, Ron et elle sur le chemin de traverse. Charlie était en train de raccommoder une cagoule à l'épreuve du feu. Harry astiquait son éclair de feu à l'aide du nécessaire à balai qu'Hermione lui avait offert pour son 13e anniversaire. Et Fred et George, assis dans un coin à l'autre bout de la pièce, parlaient en chuchotant, une plume à la main, la tête penchée sur un morceau de parchemin. « Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ?» dit sèchement Madame Wesley en fixant les jumeaux. « On fait nos devoirs, » répondit Fred d'un air vague. « Ne sois pas ridicule, vous êtes encore en vacances, » répliqua Madame Wesley. « On avait pris un peu de retard, » dit Georges. « Vous ne seriez pas en train de refaire des bons de commande par hasard ?» demanda Madame Wesley d'un air inquisiteur. « Vous n'auriez quand même pas l'intention de recommencer cette histoire de farce pour sorciers facétieux ?»« Écoute, maman, » répondit Fred en levant vers elle un regard attristé. « Si demain le Poudlard Express déraille et qu'on ait tué tous les deux, Georges et moi, imagine dans quel état tu seras en pensant que la dernière fois que tu nous as adressé la parole, c'était pour nous accuser injustement. » Tout le monde éclata de rire, même Madame Wesley. « Ah, votre père arrive, » dit-elle soudain en regardant à nouveau l'horloge. L'aiguille de M. Wesley avait soudain bondi de « au travail » à « en déplacement ». Une seconde plus tard, elle rejoignit les 8 autres pointés sur « à la maison » et ils l'entendirent leur dire « bonjour » depuis la cuisine. « J'arrive, Arthur !» s'écria Madame Wesley en se précipitant hors de la pièce. Quelques instants plus tard, M. Wesley entra dans le salon, confortable et chaleureux, portant son dîner sur un plateau. Il avait l'air complètement épuisé.
« Cette fois-ci, ça chauffe vraiment !»
dit-il à son épouse, tandis qu'il s'asseyait dans un fauteuil auprès de la cheminée pour grignoter sans enthousiasme le chou-fleur un peu racorni que contenait son assiette. Rita Skeeter a passé la semaine à fureter un peu partout pour voir si le ministère n'avait pas commis d'autres bévues qu'elle pourrait rapporter dans ses articles. Et maintenant, elle a découvert la disparition de cette pauvre Bertha. Ce sera en première page demain dans la Gazette. Pourtant, je n'ai cessé de répéter à Verpe qu'il aurait dû envoyer quelqu'un à sa recherche.
« Ça fait des semaines que M. Croupton dit la même chose », s'empressa de rappeler Percy.
« Croupton a beaucoup de chance que Rita ne sache rien de ce qui s'est passé avec Winky », répliqua M. Wesley d'un ton irrité. « Elle aurait de quoi faire une semaine de gros titres avec l'histoire de son elfe de maison trouvé en possession de la baguette magique qui a fait apparaître la marque des ténèbres.
Je croyais que nous étions tous d'accord pour dire que même si elle a eu une conduite irresponsable, ce n'est pas son elfe qui a fait surgir la marque », lança Percy d'un ton ardent.
« Si tu veux mon opinion, M. Croupton a aussi beaucoup de chance que personne à la Gazette du Sorcier ne sache à quel point il est cruel avec ses elfes !»
intervint Hermione avec colère.
« Bon, alors, maintenant, écoute-moi bien, Hermione, répliqua Percy. Un haut fonctionnaire du ministère comme M. Croupton est en droit d'attendre que ses serviteurs lui obéissent scrupuleusement. »« Ses serviteurs ? Ses esclaves, tu veux dire ?» l'interrompit Hermione d'une voix perçante. « Il ne la paye pas, Winky, que je sache !»
« Je crois que vous feriez bien d'aller vérifier vos bagages, » dit Madame Wesley pour couper court à la conversation. « Allez tout le monde, montez donc dans vos chambres !»
Harry rangea son nécessaire à balai, mit son éclair de feu sur son épaule et monta l'escalier en compagnie de Ron. Le bruit de la pluie était encore plus intense au dernier étage, ponctué par les gémissements du vent, sans parler des hurlements que poussait de temps à autre la goule qui habitait le grenier. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, Coxigrue se mit à pépier et à volter en tous sens dans sa cage. La vue des valises et des malles à moitié faites semblait l'avoir plongé dans une véritable frénésie. « Donne-lui un peu de miamibou, » dit Ron en lui lançant un paquet à travers la pièce. « Ça va peut-être le calmer. » Harry glissa quelques biscuits de miamibou à travers les barreaux de la cage de Coxigrue, puis s'occupa de finir ses bagages. À côté de lui, la cage d'Edwige était toujours vide.
« Ça fait plus d'une semaine, » dit Harry en regardant le perchoir de sa chouette. « Je ne crois pas qu'ils auraient capturé Sirius ?»
« Non, bien sûr, on l'aurait su par la Gazette du Sorcier, » répondit Ron. « Les gens du ministère ne perdraient pas une occasion de faire savoir qu'ils ont réussi à attraper quelqu'un. Tu penses bien ?»«
Tu dois avoir raison. Tiens, voilà tous les trucs que ma mère t'a achetés sur le chemin de traverse. Elle est allée te chercher de l'or dans ton coffre aussi, et puis elle a lavé toutes tes chaussettes. »
Il déposa une pile de paquets sur le lit de Harry, ainsi qu'un sac d'or et un tas de chaussettes. Harry commença à déballer les paquets. En dehors du livre des sorts et enchantements, niveau 4, par Miranda Fauconnette, il découvrit un assortiment de plumes neuves, une douzaine de rouleaux de parchemin et des ingrédients pour son nécessaire à potion. Il n'avait presque plus d'épines de poisson diable ni d'essence de belladone. Il était en train d'entasser des sous-vêtements dans son chaudron lorsque Ron lança soudain une exclamation de dégoût.
« Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? »
Il tenait entre ses mains une longue robe de velours violet ornée d'un jabot de dentelle un peu moisi et de manchettes assorties. On frappa à la porte et Madame Wesley entra, les bras chargés de robes de poudlard fraîchement nettoyées.
« Et voilà » dit-elle en les séparant en deux piles. « Faites attention de bien les ranger pour qu'elles ne se froissent pas. « Maman, tu m'as donné la nouvelle robe de Ginny !» se plaignit Ron en lui montrant la robe de velours.
« Bien sûr que non !» répondit Madame Wesley. « C'est ta robe de soirée !»«
Quoi ?»
s'exclama Ron, horrifié. «
Ta robe de soirée ?» répéta Madame Wesley. « Cette année, tu dois avoir une tenue de soirée, c'est écrit dans la liste envoyée par l'école, pour les cérémonies officielles. »«
Mais tu plaisantes ?» dit Ron incrédule. « Il n'est pas question que je porte ça !»«
Tout le monde en a, Ron !» répliqua Madame Wesley avec colère. « Elles sont toutes comme ça. Ton père en a aussi pour les soirées mondaines. »«
Je préfère me promener tout nu plutôt que de mettre un truc pareil. » dit Ron d'un air buté. « Ne sois pas idiot !» protesta Madame Wesley. « Je te dis que les robes de soirée sont obligatoires cette année. Regarde ta liste. J'en ai aussi pris une pour Harry. Montre-lui, Harry !»
Avec une certaine appréhension, Harry ouvrit le dernier paquet qui se trouvait sur son lit. Mais ce qu'il y découvrit ne fut pas aussi terrible que ce qu'il redoutait. Sa robe de soirée ne comportait aucune dentelle. En fait, elle ressemblait plus ou moins à celle de l'école, sauf qu'elle était vert bouteille au lieu d'être noire.
« J'ai pensé qu'elle mettrait tes yeux en valeur, » dit Madame Wesley d'un ton affectueux. « La sienne, ça va !»
dit Ron avec colère en regardant la robe de Harry.
« Pourquoi est-ce que j'en ai pas une comme ça, moi ?»« Parce que j'ai été obligé d'acheter la tienne d'occasion et qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. » répondit Madame Wesley en rougissant.
Harry regarda ailleurs. Il aurait volontiers partagé avec les Wesley tout l'or que contenait sa chambre forte à Gringotts. Mais il savait qu'il n'aurait jamais accepté.
« Je ne porterai jamais ça !» insista Ron. « Jamais !»«
Très bien !» répliqua sèchement Madame Wesley. « Dans ce cas, promène-toi tout nu. Harry, tu n'oublieras pas de prendre une photo de lui. J'ai bien besoin de rire un peu de temps en temps. »
Et elle sortit de la pièce en claquant la porte. Ils entendirent alors un étrange crachotement derrière eux. Coxigru, qui avait mangé un trop gros morceau de Miami Bou, s'était coincé le bec et était en train de s'étrangler.
« Pourquoi est-ce qu'on me donne toujours ce qu'il y a de plus ridicule ?»
dit Ron avec fureur en s'avançant à grands pas vers la cage pour aider Coxigru à décoincer son bec.